La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il ne savait ni le jour ni l'heure, mais c'est comme si depuis toujours il s'était préparé à ce moment, en avait parlé, avait écrit à son sujet. Et c'est finalement le 27 décembre 1991 que cela est arrivé, la mort d'Hervé Guibert dans sa 36e année. La mort qui avait été sa grande fascination à la fois d'homme et d'écrivain, et cela bien avant la découverte qu'il était atteint du virus du sida. Il a écrit sur le corps qui jouit, le corps qui souffre. Il a écrit sur sa famille, sur ses proches, mais il a surtout écrit sur lui dans un style glaçant de pureté où les sentiments semblent comme évacués pour mieux laisser la place aux émotions du lecteur, comme nous allons tenter de le voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous terminerons notre série avec des témoignages d'admirateurs de Guibert, Mathieu Simonet, Bénédicte Heim et Brigitte Ollier. Mercredi, il sera question de Guibert photographe et de la postmodernité dans son œuvre. Ce sera avec Arnaud Genon. Enfin, demain, nous serons davantage sur la question de l'autofiction qu'il a contribué à définir. Ce sera cette fois avec Bruno Blankmann. Et aujourd'hui ?
Enfant est le mot qui m'a toujours le plus ému, le plus qui traverse, je crois, tous mes livres. Je suis pas comme les. Je cite une phrase d'Orson Welles, c'est "Blooding Childhood", enfin l'enfance qui continue de saigner. Je suis pas remis de mon enfance et de du regret atroce de sa perte, quoi.
Et bien aujourd'hui, pour raconter la vie d'Hervé Guibert, nous sommes avec l'un de ses biographes, Frédéric Andreau. Bonjour.
Bonjour.
Hervé Guibert qui disait en archive à l'instant ne s'être jamais remis de la perte de son enfance. Et pourtant, Frédéric Andreau, quand il parlait de ses plus jeunes années, on n'avait pas l'impression d'une très grande félicité, mais déjà plutôt d'une sorte d'inquiétude qui vient très tôt.
Il faut dire que le milieu familial était quand même assez propice à une espèce de fébrilité et d'inquiétude. On peut remettre le contexte tel qu'il était. Un père vétérinaire, un peu autoritaire, une mère institutrice, une sœur, les quatre membres de la famille vivaient dans un appartement à Paris. Le père était assez maladroit dans l'éducation des enfants et il imposait un certain nombre de choses qui aujourd'hui paraissent complètement dérisoires. À titre d'exemple, pour former le goût culturel et artistique des enfants, il affichait au mur de l'appartement des copies de tableaux. Alors, de très mauvaise qualité, c'était parfois des copies qu'il déchirait dans les magazines, ou c'était des couvercles de boîtes de chocolat. Vous savez, à l'époque, il y avait des reproductions de tableaux. Ça s'imposait aux enfants qui n'avaient pas forcément choisi à ce moment de leur vie de s'intéresser à la peinture. Donc ils avaient ces tableaux qui les agressaient. Qui les effrayaient. Il y avait d'autres pratiques qui étaient quand même assez traumatisantes. Par exemple, il leur lisait des passages d'histoire. Il avait choisi pour les instruire de leur lire notamment sur les relations entre la France et l'Allemagne.
Et sur la Shoah.
Sur la Shoah, par exemple. Alors c'est vrai que je suis pas certain que ce soit les sujets les plus faciles pour des enfants en bas âge. Il y avait aussi une autre pratique qui était assez particulière chez les Guibert, c'est que le père, le matin, quand il partait aux abattoirs, parce qu'il était vétérinaire, mais il ne travaillait pas en clientèle, il travaillait aux abattoirs, il choisissait dans l'actualité des faits qu'il écrivait sur les petits papiers et il posait les petits papiers sur la table du petit-déjeuner pour que les enfants s'imprègnent de l'actualité et soient au courant des choses pour partir dans leur journée d'école. Mmh. Donc c'est vrai que tout ça, c'est quand même des pratiques qui paraissent d'une autre époque et il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les années 60. Quoi.
D'ailleurs, la visite aux abattoirs du petit enfant Hervé Guibert, elle avait évidemment traumatisé.
Moi aussi, ça m'aurait traumatisé. C'est vrai que... Puis le père était très... Oui, une forme de. Je pense qu'il y avait une inconscience derrière. Il n'y avait pas volonté de choquer ou de provoquer, mais c'était une inconscience. Il y avait un tas de pratiques qui paraissait anodine, mais qui forcément était traumatisante. J'ai un autre exemple qui me vient en tête quand il avait une espèce, Hervé avait une espèce de doudou, on appellerait ça un doudou maintenant, une peluche, enfin un morceau de tissu qu'il appelait son frère de laine. Et puis un jour, les parents...
Qui était très sale, évidemment, voilà. Comme toujours ces petits doudous.
On a tous eu des doudous très sales, ou on a tous connu des doudous très sales, on les passe à la machine à laver et ils redeviennent les mêmes doudous un peu plus propres. Mais là, les parents, dans une autorité encore une fois mal placée, avaient décidé que cette peluche était quelque chose qui apportait des microbes, donc on a subtilisé la peluche et on l'a remplacée par une neuve. Et pour Hervé, c'est intéressant double titre, d'abord parce que c'est traumatisant en tant avec le lien de son frère de laine qu'il avait, mais c'est aussi la toute première approche de la mort, c'est-à-dire que pour lui, son frère de laine était mort. Et c'est très intéressant parce que ça a vraiment dicté beaucoup, beaucoup de comportement, de réflexe sur la mort qu'il a pu avoir tout au long de sa vie.
Quel portrait on peut faire de lui? Parce que vous expliquez donc dans votre essai biographique publié en mai 2015, Hervé Guibert ou les morsures du destin, que c'était un personnage à la personnalité extrêmement complexe, paradoxale, et que finalement c'est un petit peu ce qui vous a donné envie de vous intéresser à lui, d'essayer de comprendre qui il était.
Oh, c'est pas la seule chose qui m'ait donné envie de m'intéresser à lui, mais c'était quelqu'un qui était effectivement très décalé par rapport aux autres. Alors, il a eu une enfance aussi un petit peu brinque-ballée entre Paris et après La Rochelle, puisque... Il a déménagé une fois. Donc au début, à l'école, il n'était pas proche des autres enfants. Il était d'abord, il était très beau. Il était presque angélique. Donc il y avait quelque chose qui le différencier un peu des autres. Il avait aucune attirance pour les autres enfants de sa
surtout
classe.
Ceux qui n'étaient pas très beaux d'ailleurs.
Voilà, il était très très élitiste par rapport à très esthète par rapport à tout ça, et il n'était pas forcément très sympathique avec les enfants, mais il n'était pas non plus antipathique. Il était distant, juste distant. Donc ça lui a permis, cette distance a aussi permis de créer sa propre personnalité, de s'inventer des refuges et des choses que qu'il était seul à pouvoir pénétrer.
Un jour, mes parents habitaient encore à La Rochelle, dans ce grand appartement clair, bordé entièrement par un balcon qui surplombait les arbres du parc et un peu plus loin la mer. Je devais alors avoir 18 ans et j'étais revenu là pour un week-end, un jour de soleil, mais d'un soleil frais, aéré et doux, j'imagine maintenant mai ou juin, je décidai de prendre ma mère en photo. Si j'avais 18 ans, ce devait être en 1973, et ma mère, qui est née en 1928, devait donc avoir 45 ans. Un âge où elle était encore très belle, mais un âge désespéré, où je la sentais à l'extrême limite du vieillissement, de la tristesse. La première chose que je fis fut d'évacuer mon père du théâtre où la photo allait se produire, pour que son regard à elle ne passe plus par le sien, de la libérer momentanément de toute cette pression accumulée pendant plus de 20 ans, et qu'il n'y ait plus que notre connivence à nous, une connivence nouvelle, débarrassée du mari et du père, juste une mère et son fils. N'était-ce pas en réalité le décès de mon père que je voulais mettre en scène ?
Un extrait du livre d'Hervé Guibert, L'image fantôme, lu ici par Jean-Louis Trintignant. Frédéric Andreau, on est en pleine psychanalyse avec cet extrait, évacuer le père, la complicité avec la mère. Comment vous pourriez décrire un petit peu ces relations ambiguës finalement entre ses deux parents et lui?
Je pense que... C'était très difficile à définir à l'époque de sa vie, à cette époque-là de sa vie. On a eu l'explication beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, où il a finalement fait un aveu d'amour que personne ne soupçonnait, après avoir systématiquement tenu ses parents écartés de beaucoup de choses. Donc la réponse, on l'a eu à la fin de sa vie.
Et même après avoir écrit quand même un livre très à charge,
Mes parents. Qui a été un livre important parce que c'est sans doute le livre qui a commencé à le faire connaître et qui a eu un écho auprès de gens auprès d'un public différent, parce que c'est vrai que quand on lisait la quatrième de couverture et quand on regardait le titre et le sujet du livre, tous les gens qui étaient quelque part en conflit avec leurs parents ou qui avaient des choses qui n'arrivaient pas à régler avec leurs parents étaient attirés par ce livre et le lisaient. Et du coup, ça a été une façon d'entrer dans l'univers d'Hervé Guibert. Bon, souvent, ils n'étaient pas déçus du voyage parce que c'était quand même assez violent et assez cru aussi par moments. Mais ça a vraiment permis, ça a assis sa notoriété auprès d'un public nouveau.
Donc il y a cette espèce d'amour, mais quand même de répulsion, d'incompréhension entre le fils et les deux parents. En revanche, il y a les grand-tantes qui, dans la famille, constituent le pôle vraiment le plus attractif.
Il avait une relation avec ces deux vieilles femmes, ces deux vieilles tantes, ces grand-tantes, tout à fait particulières. Je pense qu'il développait avec elles l'affection qu'il n'arrivait pas à développer avec ses parents. C'était la sortie du dimanche après-midi, on l'envoyait chez les grand-tantes et il s'amuse avec elles. Et puis par la suite, il les a photographiées dans des situations très compliquées. Il avait des échanges.
Très compliquées, c'est-à-dire ?
Oh bah, c'est-à-dire que il a publié un roman photo où il les mettait en scène dans des positions complètement folles. Il a obligé une des deux, par exemple, à se couper les cheveux et il a photographié ça. Il en a photographié une avec une muselière de chien.
C'est des personnes âgées, hein, quand même.
Oui, elles avaient 80 ans. Et elles se prêtaient. Ce qui était incroyable, c'est qu'elles se prêtaient systématiquement au jeu, quoi. Il y avait un amour entre les grand-tantes et lui qui était incroyable. Et puis la complicité a duré jusqu'au bout, puisque ce qui était terrible, c'est que finalement, quand je dis ils, c'est les deux grands-tantes et Hervé, sont arrivés au bout de leur vie en même temps. Les deux tantes à 95 ans, lui à 36 ans, ce qui était quand même quelque chose de terrible.
Alors, c'était une relation aussi avec ces grands-tantes qui étaient en lien avec l'art et la musique en particulier. Sa tante Suzanne l'emmenait au concert, elle était violoniste. L'art, ça a de toute façon toujours été quelque chose de très très important pour Hervé Guibert, et notamment le théâtre qu'il découvre à La Rochelle, Frédéric Andreau.
Oui, alors à La Rochelle, quand ils sont arrivés à La Rochelle, évidemment pour lui, le départ de Paris pour La Rochelle a sonné comme un couperet incroyable. Il arrivait, on l'enlevait de Paris.
Alors en même temps, il dit que il a été d'accord pour partir
parce qu'il a fait un calcul derrière.
Voilà. Alors quel calcul ?
Le calcul, c'était qu'il s'était dit, comme il voulait, il prétendait faire des études. Il savait très bien qu'à La Rochelle, on ne pouvait pas faire d'études et que très tôt ou très vite, il espérait revenir à Paris pour faire des études qu'il allait habilement choisir parce qu'elles étaient exclusivement parisiennes. Et donc forcément, il faudrait que le jeune étudiant revienne à Paris seul, sans les parents, puisque les parents étaient installés à La Rochelle.
Maintenant, on peut faire des études à La Rochelle.
Maintenant, on peut, mais en 1970, je ne suis pas sûr qu'on pouvait vraiment.
Et alors, il découvre le théâtre là-bas.
Il fait du théâtre, effectivement. Il a joué plusieurs pièces. Il a fait un coup de forcing pour faire du théâtre parce qu'il était mineur, parce qu'il fait l'autorisation des parents, les parents donnaient l'autorisation. Il était arrivé pour s'inscrire, c'était fermé, il a fait le siège, il a attendu que ce soit... Enfin bon, il voulait vraiment faire ça. Et puis, ce qui a été très fort dans cette expérience théâtrale, ça a été aussi la connaissance de son premier amour. Pour lui, l'ouverture vers l'affection, vers des choses qu'il pouvait vivre, alors forcément un peu cachées, mais ça a été quelque chose de très très fort.
Alors, sa prédiction qu'il devrait retourner à Paris s'est en effet réalisée, puisque une fois le bac en poche, il revient à la capitale. Et là, il a déjà appris un petit peu la liberté, donc avec en effet ce garçon au théâtre, avec un amant parisien aussi, qu'il va voir quand il est encore au lycée. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive à Paris de ce point de vue-là ?
Ce qu'il n'avait pas prévu aussi, c'était que la mère suivrait un petit peu le mouvement, quoi. C'est-à-dire que la mère avait du mal à le laisser tout seul dans l'appartement à Paris, donc elle venait au prétexte de faire le ménage, au prétexte de faire certaines choses, et finalement il avait quand même du mal à s'en défaire complètement. Mais il avait quand même une nouvelle liberté. Il découvrait la sexualité, il découvrait les sorties à Paris, enfin tout ce qu'un jeune étudiant qui se sentait un peu brimé en province peut redécouvrir.
Et puis il découvrait aussi un milieu intellectuel et littéraire, avec la rencontre par exemple de Claude-Michel Cluny, critique littéraire, de l'écrivain Jean-Louis Bory, et puis surtout en 1977 de Michel Foucault. Ça c'est au moment de la parution de La mort propagande. Alors Frédéric Andreau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la relation entre Michel Foucault et le jeune Hervé Guibert?
Alors c'est vrai que la mort, d'abord ils étaient voisins. Ils se sont trouvés voisins, et ça c'était le hasard qui avait fait les choses comme ça. La mort propagande, ça a été le premier livre d'Hervé, qui au passage a été publié par Régine Deforge. Régine, un jour, voit arriver dans son bureau un jeune étudiant qui passe par un chemin que personne n'utilisait, c'est-à-dire la porte extérieure, dans son bureau est au fond d'une cour, personne ne savait qu'il y avait une porte là, mais lui arrive, il frappe, elle ouvre, très surprise, et elle voit ce garçon blond, frisé, les yeux clairs, écarquillés, qui lui apporte ce livre, ce manuscrit, La mort propagande. Presque gêné, il dépose ça, il s'en va, et Régine, qui était occupée à plein d'autres choses, ne pouvait plus rien faire d'autre que de lire ce manuscrit. Et quand elle l'a lu, elle s'est dit, mais comment est-ce que quelqu'un d'apparence aussi angélique peut écrire des choses pareilles? Parce que c'était terrible, c'était violent, presque scatologique, un peu pornographique, il y avait vraiment des choses très fortes dedans. Et elle s'est dit, elle qui avait eu moult problème avec la justice pour des publications qui n'étaient pas franchement autorisées, etc. Elle s'est dit, si moi je ne le publie pas, personne ne le publiera. Et donc du coup, elle a décidé de le publier. Il y avait des choses à retravailler dedans, mais elle sentait qu'il y avait une écriture, qu'il y avait quelque chose de différent. Et effectivement, elle l'a publié tel que. Elle ne lui a pas demandé de le retravailler parce qu'elle sentait aussi la fragilité du garçon, et elle s'est dit qu'il n'était pas capable de retravailler son livre. Alors elle était un petit peu embêtée pour le publier, parce que le livre était, il y avait un texte qui n'était pas très long, et du coup elle a joué avec les blancs, des grosseurs de caractère, etc., pour que ça ait quand même l'apparence d'un livre. Donc ce livre est sorti en 1977, et a fait un petit peu...
Donc Guibert a 23 ans.
Voilà, puisqu'il est né en 55, c'est ça, 22, ouais. Et le livre est arrivé un peu comme un ovni. Il a été très vite lu dans les milieux homosexuels de l'époque parce que on savait plus ou moins que c'était il y avait une liberté de ton dans le livre qui pouvait séduire les gens, et Foucault et Roland Barthes d'ailleurs ont été emballés par le livre. Alors est-ce qu'ils ont été emballés par le style, est-ce qu'ils ont été emballés par la beauté de l'auteur qui les a incités à s'intéresser un peu plus au livre? Le fait est que quand Foucault et Barthes s'intéressent à un livre et en parlent, eh bien ça fait traîner de poudre, et le livre a été lu par beaucoup de gens dans le milieu homosexuel qui finalement peut-être assouvissait des fantasmes interdits. Enfin, à l'époque, on vivait pas l'homosexualité comme aujourd'hui. Donc il y avait des gens pour qui la seule expression de leur homosexualité était dans les livres. Et c'était comme pour ça que le livre connu.
En tout cas, c'est le début d'une relation importante avec Foucault. Oui.
Alors c'est vrai que Michel Foucault avait une habitude qui était de réunir autour de lui un certain nombre de personnes, notamment des écrivains, au cours de dîners qu'il organisait chez lui. Alors il était parfois là, parfois pas là. Quand il était là, c'était un petit peu plus policé que quand il n'était pas là. Mais Hervé aimait beaucoup y aller parce qu'il y rencontrait un tas de gens. Il y avait Mathieu Lindon, il y avait d'autres personnes.
Mais il préférait y aller seul pour parler avec Foucault.
Voilà. Et il y avait aussi ces apnées privilégiées où il se retrouvait seul avec Michel Foucault, et là, c'était des échanges extrêmement profonds sur la littérature, sur la philosophie, sur la vie, sur la sexualité, sur plein de choses. Il n'y avait pas beaucoup de tabous entre les deux. Et on parlera peut-être de ça après, mais ça a aussi nourri un livre qu'il a écrit à la fin de sa vie, où il a raconté beaucoup de choses sur la fin de la vie de Foucault.
Qui s'appelle « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Je vous propose d'en entendre tout de suite un extrait.
Musil adorait les orgies violentes dans les saunas. La crainte d'y être reconnu l'empêchait de fréquenter les saunas parisiens. Mais, quand il partait pour son séminaire annuel près de San Francisco, il s'en donnait à cœur joie dans les nombreux saunas de cette ville, aujourd'hui désaffectée à cause de l'épidémie, et transformée en supermarché ou en parking. Les homosexuels de San Francisco réalisaient dans ces espaces les fantasmes les plus insensés, mettant à la place d'urinoirs de vieilles baignoires où les victimes restaient couchées des nuits entières dans l'attente des souillures, remontant dans des étages exigus des camions de routards démantibulés qu'ils utilisaient comme chambres de torture. Musil rentra de son séminaire de l'automne 1983 en s'arrachant les poumons. Une toux sèche l'épuisait progressivement. Mais, entre deux quintes, il se délectait en évoquant ses dernières frasques dans les saunas de San Francisco. Je lui dis ce jour-là, « À cause du sida, il ne doit plus y avoir un chat dans ces endroits. »« Détrompe-toi, » répondit-il. Il n'y a au contraire jamais eu autant de monde dans les saunas. Et c'est devenu extraordinaire. Cette menace qui flotte a créé de nouvelles complicités, de nouvelles tendresses, de nouvelles solidarités. Avant, on n'échangeait jamais une parole. Maintenant, on se parle. Chacun sait très précisément pourquoi il est là. Another one bites the dust.
Another one bites the dust. And another one gone. And another one... La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors évidemment, le Musil dont il est question dans cet extrait d'Alamy qui ne m'a pas sauvé la vie, c'est Foucault.
Oui, c'est Foucault. C'est vrai qu'il y a une chose importante dans la relation avec Michel Foucault, c'est de bien souligner qu'il y avait un apport réciproque, c'est-à-dire que Foucault apportait à Hervé Guibert une espèce de d'autorité morale, de d'influence morale, mais Guibert apportait à Foucault une fantaisie qui tranchait énormément avec la rigidité du milieu intellectuel dans lequel il était professeur au Collège de France. On riait pas forcément tout le temps beaucoup dans les chaires du Collège de France. Donc Hervé Guibert...
Je vous laisse la paternité de ces propos là. Hein.
Je ne suis pas allé beaucoup remarquer, mais c'est une image qu'on a. Et c'est vrai que le côté imprévisible, fantaisiste, un peu marginal d'Hervé tranchait avec cette rigidité du milieu intellectuel. Et Michel Foucault appréciait beaucoup. Donc il y avait une espèce d'équilibre qu'il trouvait entre les deux. Et la relation de Foucault avec Guibert apportait à Hervé également un équilibre qui pouvait aussi lui donner un repère dans sa vie parisienne. C'est avec le tel soir, c'était le dîner avec Foucault. Donc c'est une chose à laquelle il s'obligeait de céder. Et c'était quelque chose qui lui apportait beaucoup. Il en a parlé beaucoup d'ailleurs.
Alors il y a aussi dans le rapport avec Foucault évidemment, et on l'a entendu d'ailleurs dans cet extrait, un rapport avec les fantasmes et les fantasmes sexuel. Vous racontez d'ailleurs les lieux de drague à Paris de l'époque, le jardin des Tuileries en particulier, où Guibert pouvait passer des soirées entières. Vous dites que Guibert vivait, qu'il vivait même pleinement, et puis il a fréquenté aussi des associations homosexuelles, comme par exemple le Phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Est-ce que c'était pour autant un militant, Frédéric Andreau ?
Non, il n'était pas très militant. Il était d'ailleurs, quand Aide a été créée par le compagnon de Michel Foucault, Daniel Defer. Spontanément, Hervé a soutenu l'initiative, notamment financièrement, mais il n'a jamais été militant visible. Il n'a jamais voulu apparaître. Bon, à l'époque, déjà, il avait une certaine notoriété. Il n'a pas voulu servir de sa notoriété au service d'un combat quelconque.
Ça ne lui ressemblait pas d'être un militant ?
C'était un personnage de paradoxe, Hervé. C'est-à-dire qu'il pouvait être militant à l'intérieur de lui-même, mais pas forcément chercher à ce que ça se voit beaucoup. Et d'ailleurs, je suis pas certain que parfois les combats les plus efficaces soient pas ceux qui ne se voient pas. Donc, c'était peut-être aussi il avait un rôle important aussi dans la militance, mais à sa façon. C'était pas s'exposer. Il voulait pas forcément faire une récupération par rapport à ça et qu'on récupère son image non plus.
Alors c'est aussi encore un jeune étudiant ou quelqu'un qui aspire à être étudiant et il y a le passage par le concours de l'IDEC. Il aspire à ce moment-là à devenir cinéaste.
Oui, il a toujours été fasciné par le cinéma et c'est vrai qu'il a passé le concours de l'IDEC où il a été extrêmement brillant, notamment dans l'épreuve du scénario.
Où il imagine quand même une histoire d'inceste entre un frère et une sœur, et ça, le jury avait été apparemment assez convaincu.
Ben, ça ne pouvait pas être autre chose. Hein. Avec Hervé Guibert, ça ne pouvait être qu'un sujet comme ça qui pouvait trancher du lot. Oui, le jury avait été très convaincu, mais le concours de l'IDEC comprenait aussi une épreuve de montage photo, et il estimait que lui n'avait pas à se présenter à cette épreuve. Il avait réussi brillamment l'épreuve du scénario, et cette épreuve du montage photo lui paraissait complètement surréaliste, donc il a refusé d'y participer. Et évidemment,
donc il savait que, ce faisant, il ne pourrait pas intégrer l'IDEC.
Je suis pas sûr qu'il l'ait vraiment su, ou alors il pensait peut-être avoir un passe-droit, justement, et que, au regard, peut-être, de la réussite du scénario, on allait quand même lui ouvrir le... Mais ça fait partie de ces rendez-vous manqués avec le cinéma, qui ont été nombreux tout au long de sa vie, il y en a eu d'autres.
Avec Chéreau.
Avec Chéreau,
par exemple.
Enfin, ça
n'a pas été qu'un rendez-vous manqué avec Chéreau, mais
non,
ça a été
mais
aussi
quand
un
même
rendez-vous
un
manqué.
Petit peu, oui. Et puis, il avait aussi fait une figuration dans un film. Mais ça a été aussi quelque chose de sans suite.
Apparemment, c'était pas un très bon acteur non plus. Il avait peut-être caressé cette idée de devenir acteur, mais on l'en avait dissuadé.
Oui, complètement, complètement. Puis après, il a eu un autre gros échec en matière de cinéma, c'est qu'il avait ambitionné de réaliser un film. Il écrivait un scénario, notamment pour Isabella Gianni, qu'il connaissait bien. On racontera peut-être comment ils se sont connus après. Et donc, il écrivait le scénario pour Isabella Gianni. Et c'est vrai que quand Isabella Gianni a refusé de participer au film, pour des raisons qu'on évoquera ou qu'on peut évoquer maintenant.
Allons-y.
Elle lui a dit que... Je pense qu'il mettait trop de pression, Hervé mettait trop de pression sur Isabella Gianni. Alors, est-ce que c'était pour atteindre les sphères de la notoriété? Il espérait que ce film serait un succès, avec Isabella Gianni dedans, qui était très populaire à l'époque, et ça l'aurait entraîné vers, effectivement, la notoriété. Mais le fait est qu'il mettait beaucoup de pression et qu'Isabella Gianni avait dit comme argument « il attend trop de moi mm-hmm. ». Et elle n'était pas certaine de pouvoir donner ça. Donc elle a refusé le projet, et ça a été pour Hervé quelque chose de terrible.
Quant à l'histoire avec Chéreau, il y a donc la co-écriture de ce scénario, L'homme blessé, ouais. Et puis à Cannes, un prix pour ce scénario, mais finalement c'est Chéreau qui éclipse le travail de Hervé Guibert. C'est ça le rendez-vous manqué.
Oui, il y a eu deux choses, il y a eu ça, puis il y a eu les Césars aussi, où on voit à la remise des prix, donc il y a eu le prix du, je crois que c'est le meilleur scénario original, donc on appelle sur scène Patrice Chéreau, Hervé Guibert, qui étaient donc les co-auteurs du scénario. Ça n'avait pas été une histoire simple, hein, l'écriture du scénario. Ça avait mis des années, et puis ça a été mis de côté, et puis ça a été quelque chose de très compliqué. Mais quand on voit les images de la remise des Césars, on voit Chéreau très souriant au premier plan, et on voit Hervé au second plan, en smoking, avec un nœud papillon, les mains dans les poches, très gêné d'être là. C'est pas lui qui avait la vedette, c'était Chéreau. Et Chéreau n'a pas su vraiment mettre en valeur non plus son co-scénariste.
Bon.
Donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce de frustration à ce moment-là.
Alors il y a aussi tout un pan de la vie de Guibert qui est le journalisme. Ça c'est la période où il travaille au Monde au service culturel avec Yvonne Babi. Et finalement, d'être rattaché comme ça à un organe de presse, d'avoir un quotidien qui l'oblige d'une certaine manière à voir des gens, ça le sort de sa personnalité solitaire. Parce que c'est quand même un garçon, à cette époque-là, et sans doute toute sa vie, qui sera extrêmement solitaire, Frédéric Andreau.
Oui, beaucoup de gens n'imaginent pas ça. C'est-à-dire qu'on imaginait Hervé Guibert avec une vie... sexuel très débridé, par exemple, on l'imaginait, je sais pas, se coucher tous les matins à 5 heures après avoir passé toutes les nuits en boîte. C'était pas du tout ça, Hervé Guibert. C'était quelqu'un qui était plutôt seul, solitaire,
qui travaillait énormément,
qui travaillait beaucoup, qui écrivait beaucoup. Et cette expérience du Monde, ça a été quelque chose d'assez incroyable, parce que il avait peu de doutes, hein, quand même. Il est allé frapper lui-même au Monde pour proposer un papier. Alors c'était au mois d'août, il avait écrit un papier sur un spectacle qui s'était donné au Festival d'Avignon, et il est allé carrément au Monde en disant « Voilà, j'ai écrit cette critique d'un spectacle, est-ce que vous pouvez la publier ?» Alors c'est vrai que c'était pas une démarche très, très courante, hein, mais bon, ils ont lu le papier. Yvonne Babi, qui était la directrice des pages culturelles, n'était pas là parce que c'était les vacances d'été. L'équipe qui était en place a lu le papier, a trouvé qu'il y avait quand même des qualités, puis ils se sont dit « Bon, après tout, c'est le mois d'août, on prend pas un grand risque, allez, on publie le papier. » Et quand Yvonne Babi est rentrée de vacances et qu'elle a suivi un petit peu ce qui s'était passé, elle avait bien évidemment trouvé des qualités au papier et elle a voulu rencontrer le personnage. Donc ils se sont rencontrés avec Hervé. Et le courant est passé, elle trouvait vraiment qu'il avait un certain talent. Elle lui a dit, écoutez, moi je vais vous embaucher, vous proposer une chronique et tout. Alors lui, Hervé se voyait déjà tenir la chronique du cinéma ou du théâtre, enfin les chroniques les plus prestigieuses qui étaient recherchées par les journalistes. Et elle lui pose une question, elle lui dit, est-ce que vous connaissez quelque chose à la photo? Et il répond non. Et elle lui a dit, c'est parfait, comme ça vous n'aurez aucun a priori, vous allez pouvoir tenir une rubrique photo. Donc il s'est retrouvé en charge d'une rubrique photo qui l'a développée, puisqu'elle n'existait pas, et qui a été extrêmement appréciée et très très courue.
Et qui va être aussi très importante pour lui, puisqu'il va devenir photographe et écrire des livres aussi sur la photographie.
Bien sûr.
On en parlera en particulier mercredi prochain avec Arnaud Genot. On va continuer, Frédéric Andreau, de parler d'Hervé Guibert avec vous. Ce sera juste après les conseils de lecture d'Anne-Sophie Rouvelou.
compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Anne-Sophie Rouvelou de la revue Page des libraires. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Trois livres, trois conseils aujourd'hui avec d'abord Le registre de l'inquiétude. C'est un livre d'entretien de Lynn Ullmann avec son père et c'est chez Actes Sud. Mais qui est donc le père de Lynn Ullmann?
Ah, mystère. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est... Alors, c'est pas exactement un livre d'entretien, c'est plutôt un roman, c'est assez trompeur hein, comme ça. Mais c'est un petit ouvrage qui est beau, extrêmement mélancolique. Et donc le père, pour terminer ce suspense, c'est Ingmar Bergman. Sa fille donc est la narratrice. Et donc ils ont un projet tous les deux, c'est-à-dire faire des entretiens pour en faire naître un livre. Sauf que le problème, c'est que au moment des entretiens, son père est plutôt âgé. Il est diminué par la maladie et il a plus aucune prise entre guillemets sur le réel, c'est-à-dire qu'il confond un petit peu le rêve et la réalité. Tandis que elle essaie à tout prix de se raccrocher à ses souvenirs. Donc le livre, c'est comme une espèce de kaléidoscope géant, c'est-à-dire qu'on va osciller un petit peu entre justement le passé de cette fille et son présent, donc avec le père, son père qui ne cesse de l'avertir que vieillir est un labeur, et en ça elle va se rendre compte en vieillissant elle-même, en voyant son père du coup être touché par la maladie. Sachant que ce qui est extrêmement intéressant également, c'est que vous avez une grande mélancolie, hein, comme je l'ai dit, mais le livre, il est également parsemé de références littéraires, et en fait ça vient comme une espèce de baume, comme une consolation en fait à notre condition humaine où voilà, on a des épreuves qu'on doit surmonter malgré tout.
Alors vous avez également décidé de nous parler aujourd'hui d'Une nuit avec Jean Seberg. Ça, c'est un livre de Marie Charel chez Fleuve. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est un roman également et je suis ravie de vous en parler parce que déjà, on a eu la chance de faire un entretien avec l'auteur dans le dernier numéro de Page des libraires et surtout, du coup, moi, j'aurai la chance de la recevoir à la librairie. Et donc, ici encore, on va un petit peu osciller entre le passé et le présent. Sauf que là, l'auteur, en fait, elle part d'épisodes de la grande histoire pour comment dire, les comparer un petit peu avec des thématiques très actuelles. On est avec une femme qui s'appelle Elisabeth, qui a 70 ans et qui noie ses démons dans l'alcool, en fait. Elle est hantée par des souvenirs, notamment une manifestation qui a été un drame, une manifestation contre la guerre d'Algérie qui avait eu lieu rue de Charonne, donc ça, elle est hantée par ce souvenir. Il y a également son engagement qu'elle avait auprès des Black Panthers, qui voulait à tout prix qu'elle se rapproche de Jean Seberg pour lui prendre tout son argent. Ça s'est pas passé exactement comme prévu.
C'est donc un peu l'histoire que Romain Gary raconte aussi dans Chien Blanc.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a des liens qui sont extrêmement intéressants dans cet ouvrage. Donc, vous voyez, hein, ça va brasser plein de choses, mais on n'est jamais perdu, en fait. L'auteur a vraiment une grande, grande maîtrise par rapport à tous les sujets qu'elle aborde. Et donc, pour en revenir à cette Elisabeth qui a 70 ans, ce qui va la préoccuper le plus, vous voyez qu'il y a quand même, comment dire, plusieurs intrigues, c'est que son petit-fils a disparu. Elle se sent très proche de lui, ils ont des affinités, et donc elle va tout faire pour le retrouver. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que du coup, ça aborde des thématiques qui sont très actuelles. On va parler par exemple de la radicalisation des jeunes qui vont grossir les rangs de Daesh. On va parler des violences policières sur les Afro-Américains. Donc vous voyez, c'est extrêmement dense, c'est toujours bienvenu. Et écoutez, c'est très divertissant et très, très, très émouvant. Et je pense que toute la pertinence qu'il y a dans ces sujets d'actualité ou alors du passé, ça vient du fait que Marie Charel, elle est journaliste. Voilà.
Dernière sélection, c'est une bande dessinée, ça s'appelle Polaris ou la nuit de Circé. Au scénario, c'est Fabien Vellman et au dessin, c'est Gwen de Bonneval.
Oui, alors c'est une bande dessinée qui est plutôt mauvais genre, que moi j'aime beaucoup et qui est très très étonnante. En fait, elle démarre comme un polar et après ça va se transformer en une sorte de voyage artistique et sensuel, c'est extrêmement surprenant. Le point de départ, c'est une flic qui s'appelle Jeanne, qui est extrêmement brillante, qui ne mélange pas donc c'est, comment dire, son temps libre et sa carrière. Son temps libre, en fait, c'est qu'elle a un goût pour les rencontres, pour l'érotisme. Et donc, l'équilibre, il va être brisé lorsqu'un jour, il y a le corps d'une jeune femme qui va être retrouvée dans un appartement. Donc, elle va mener l'enquête et elle va remonter jusqu'à Circé, qui est un cercle libertin, qui est vraiment, comment dire, réservé aux initiés, quelque chose de très, très particulier. Et donc, elle va être sous couverture, elle va rentrer dans ce cercle. Sauf que, du coup, ça va être un petit peu dangereux parce que, voilà, il va falloir un petit petit peu, voilà, ne pas trop s'impliquer, savoir dire stop quand il le faut. Et donc en ça, c'est vraiment captivant parce qu'il y a une enquête policière, il y a le passé des personnages qui sont assez troubles, assez étranges. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'au sein de ce cercle libertin, il y a une grande curiosité pour l'art, c'est-à-dire que tous leurs jeux, ils sont toujours intellectualisés, il y a toujours un lien avec l'art. Et ça, à regarder, c'est vraiment fascinant, très surprenant. Et ce que j'ajouterais aussi qui est extrêmement beau, c'est que je vais être honnête, hein, il y a des scènes de sexe qui sont explicites, mais on ne tombe jamais dans le voyeurisme, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la sensualité. Il y a des jeux avec les dessins, avec les couleurs et l'art, comme je l'ai dit, et c'est un petit ovni qui est fort appréciable.
Polaris ou la nuit de Circé, c'est chez qui?
C'est chez Delcourt.
Merci Anne-Sophie Rouvelou, donc on retrouve votre signature dans la revue Page des Libraires. À très bientôt.
Merci.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous consacrons notre semaine à Hervé Guibert, dont Frédéric Andreau nous raconte aujourd'hui la biographie. Tandis que, dans l'archive que l'on va entendre, Patrice Chéreau donne à entendre son univers, celui d'Hervé Guibert. C'était au micro de Vincent Josse et c'était en 2004.
L'univers, il est très très noir dans les premières. Il est à la fois teinté d'une chose qui a un vrai charme, comme dans les aventures singulières ou les mages fantômes. Et très très vite, il m'a proposé, il m'a montré des photos avec ses tantes, et puis il m'a fait lire, avant même de le publier chez Régine Desforges, ce livre que j'ai toujours un mal fou à lire d'ailleurs, qui s'appelait La mort propagande. Dont il y a deux versions, je crois, ce qui est une chose de... Mais en même temps, j'étais fasciné par cet univers, j'étais fasciné par cette violence et cette brutalité.
Vous vous souvenez des premières phrases de La mort propagande? Être dans une salle de dissection et dépecer un cul.
Oui. Oui, non, je ne me souvenais pas, mais oui, on peut pas lire ça avec indifférence. Je veux dire, on est choqué, révolté, mais il y avait un univers tellement fort, mélange de maladie, de dissection, de fascination pour les déjections, pour les sécrétions, et en même temps une chose incroyablement violemment érotique. Et tout ça sortait d'un être qui donnait l'impression d'être un enfant et d'être absolument angélique, avec le regard le plus bleu que j'ai jamais vu.
Et oui, parce que dans son premier livre, La mort propagande, Guibert écrit qu'il veut faire de sa mort un spectacle, qu'il veut faire filmer sa dégradation jour après jour. Il écrit ça dès 1977. On peut même lire la phrase « Dans la nuit du 6 au 7 mars 1900... Hervé Guibert fut retrouvé mort, baignant dans son sang, au milieu de sa chambre en désordre. » Donc c'est quand même extrêmement prémonitoire.
C'est
Frédéric
très Andreau. Troublant. Oui, c'est vrai que c'est très troublant et ça nourrit beaucoup, beaucoup de théories et de discours sur des Guibertiens convaincus qui voulaient absolument faire croire au pouvoir prophétique de l'écriture d'Hervé Guibert. Et c'est vrai que c'est troublant. On se dit, il a écrit en 77, ce qui lui est arrivé en 91. Alors après, on peut imaginer plein de choses. On peut se demander aussi si finalement, pour renforcer son écriture ou l'empreinte qu'il a laissée dans la littérature, il s'est pas attaché aussi d'une certaine façon à vivre ce qu'il avait écrit en 77 dans certaines dimensions. Bon, l'inconnu reste entière. Il était capable de tout, Hervé Guibert. Et c'est vrai que ça a nourri beaucoup, beaucoup d'études. Est-ce qu'il y a ou pas un pouvoir prophétique dans l'écriture d'Hervé Guibert?
Un pouvoir prophétique, on ne sait pas, mais en tous les cas, un rapport à la mort très étonnant et qu'il cultive toute sa vie. Et donc, quand en janvier 1988, il apprend qu'il est malade du sida, il note dans son journal « Quelle souffrance, mais en fouillant bien au fond de moi, il me fallait ajouter quel pied tout ça. »
Oui, eh oui. C'est vrai que il a vraiment fait de la mort un objet littéraire comme personne d'autre. Ça revient quasiment dans chacun de ses livres. Et ce qui est troublant aussi, c'est qu'il a, on en parlera peut-être tout à l'heure, le fameux film, le seul film qu'il ait réalisé, La pudeur ou l'impudeur, il met en scène exactement ce qu'il avait écrit aussi en 77. Donc, il y a vraiment une constance dans le rapport à la mort et à sa mort.
Oui. Alors on va évidemment revenir sur l'écrivain de la maladie et sur sa période où il raconte le sida, mais il y a deux Hervé Guibert, il y a deux moments dans la vie et dans l'œuvre d'Hervé Guibert, c'est avant la maladie et pendant. Avant, c'est la période un petit peu du temps de Minuit, enfin des éditions de Minuit, puisque après, c'est pas Régine Deforges, après La mort propagande, qui va publier l'ensemble de son œuvre. On peut peut-être dire un mot de quelques-uns de ses livres à ce moment-là. Les aventures singulières, Les chiens, Voyage avec deux enfants. Voyage avec deux enfants, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Ah, on peut en dire quelque chose d'assez étonnant. C'est que je crois que ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est de bien réaliser qu'aujourd'hui, c'est très certainement un livre qu'on ne publierait plus.
Donc, pour quelles raisons ?
Bah parce que ça rentrerait sous le coup de peut-être de la pédophilie, de une espèce de censure qui est aujourd'hui liée à la société dans laquelle nous vivons.
Parce que le narrateur se met dans la peau, en effet, d'un pédophile qui part avec deux enfants en voyage.
Voilà, il part au Maroc avec deux enfants, et puis il y a des descriptions du corps des enfants, c'est très ambigu, il y a une ambiguïté vraiment omniprésente dans ce livre, et c'est vrai que quand le livre a paru, à l'époque, dans les années 80, on l'a publié, mais je pense qu'aujourd'hui, et j'en ai parlé avec Régine Deforges, je dirais, avant qu'elle ne disparaisse, elle était d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'on ne publierait plus. Ce qui est intéressant dans ce décalage, c'est de voir que la société, finalement, elle a évolué dans une direction opposée à ce qu'on aurait pu imaginer. Après 68, on pouvait imaginer que 50 ans après, il y aurait une liberté d'expression, un pouvoir de pouvoir tout dire, tout écrire, etc. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. La société aujourd'hui est beaucoup...
Enfin, la liberté du pédophile, c'est peut-être pas la meilleure.
Non, je suis d'accord, mais je parle en termes d'écriture et d'édition. Aujourd'hui, on parle toujours de la liberté d'expression en France. Alors évidemment, elle est plus importante qu'en Ukraine, qu'au Burkina Faso ou qu'en Corée du Nord. Mais pour moi, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais je pense que la liberté d'expression en France aujourd'hui, elle n'existe pas. On ne peut pas écrire ce qu'on veut, on peut pas dire ce qu'on veut. Et ce qui est terrible aussi dans cette espèce de censure, c'est que ça a généré chez l'auteur, chez l'écrivain, une auto-censure. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on écrit quelque chose, on se dit, mon Dieu, ça, est-ce que je peux l'écrire? Est-ce que j'ai droit à ce mot-là? Est-ce que mon éditeur va me le supprimer? Est-ce que cette idée-là, ça va pas être sous le coup de combat actuel de la société et on va pas me demander de changer? Donc, c'est quelque chose de très pervers, je
trouve. Donc, vous pensez qu'Hervé Guibert, finalement, de nos jours, ne pourrait plus écrire aussi librement qu'il a
convaincu.
Écrit au début de sa carrière?
Personnellement, j'en suis convaincu. Oui.
Par exemple, Les chiens, c'est aussi un roman qui a choqué.
Les chiens, c'est terrible. C'est quelque chose de... très violent, de très...
Sadomaso.
Sadomaso, oui. Alors c'est amusant, c'est que ces livres-là, quand ils ont été publiés, ils n'ont pas forcément eu un succès énorme à leur publication. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la période post-maladie dont vous parliez, qui a effectivement apporté à Hervé une certaine notoriété, a parfois été la porte d'entrée dans son univers littéraire. Et certaines personnes qui ont lu ses livres après la découverte de sa maladie, et je pense à L'ami qui m'a pas sauvé la vie, au Protocole compassionnel et tous ces livres-là, ont voulu découvrir d'autres parties de son œuvre et sont allés voir les périodes antérieures, et notamment tous ses livres un peu sadomaso, porno, etc. Et ils ont donc, les livres qu'il avait écrits dans les années 80 ont eu une diffusion, une aura bien après.
Et pourtant, ils sont tout de même très différents, livres. Parce que À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, c'est un succès immense, 400 000 exemplaires.
Oui.
Et c'est choquant, mais c'est pas choquant de la même manière. C'est choquant parce que ça raconte la maladie,
raconte,
et
oui.
Une maladie qui, à l'époque, tue toujours.
Oui, bien sûr. Ça a été. Alors, il y a eu les 400 000 exemplaires. C'est vrai que ça a été très compliqué de les analyser parce qu'il y a eu inévitablement une part de voyeurisme. Je veux dire, on était dans les années 80, on parlait du sida, tout le monde se demandait un peu à quoi ça pouvait ressembler. On savait qu'Hervé Guibert avait été quasiment le premier auteur à en faire l'aveu public, à écrire en toute transparence tout ce qui lui arrivait par rapport à la maladie. Et beaucoup de gens, je pense, ont voulu découvrir à travers son écriture ce qu'ils ne connaissaient pas de la maladie. On racontait quand même des énormités à l'époque, hein. Et c'était aussi une façon de s'informer tout simplement sur la maladie. En écartant d'ailleurs parfois de sa lecture, ce qui caractérisait quand même Hervé, c'est-à-dire cette frontière en permanence incertaine entre la réalité et la fiction. Est-ce qu'il écrivait était vrai ou pas? Personne n'était capable de le dire. On pouvait prendre des choses qu'il affirmait comme quelque chose de réel, alors qu'en fait, c'était une pure fiction.
Notamment, il y a Isabelle Adjani, qui est un personnage de ce livre « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ».
Oui, dans ce livre-là, il a mis en scène tous ses amis en changeant leur nom. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelait dans le livre... Marine, je crois. Elle s'appelait Marine parce que c'était l'époque où elle avait fait cette chanson, le pull Marine, mm-hmm. et donc il avait trouvé ce nom-là. Foucault s'appelait Musil. Yvonne Babi avait aussi un autre nom. Enfin, tout le monde avait un pseudonyme. J'aimerais revenir deux secondes sur la relation avec Yvonne Babi, parce que c'est vrai que je crois qu'elle a fait beaucoup pour lui en tant que patronne des pages culturelles du Monde. Elle a été une patronne qui lui a permis de s'exprimer, mais après, quand elle a été, on va prendre le terme cru, mais c'est le cas, virée des pages du Monde, elle a essayé de lui mettre le pied à l'étrier sur autre chose, mais enfin bon, ça n'a pas abouti. Ils sont devenus très amis. Et je dois avouer que j'ai eu accès
Les dimanches, apparemment, une tarte à quelque chose.
Et exactement. Ils
faisaient partie de la famille.
Oui, ils faisaient partie de la famille, mais surtout, ils ont entretenu une relation épistolaire extrêmement abondante. Et je dois avouer que j'ai eu la chance d'avoir accès à ces correspondances, à ces lettres d'Hervé. Et j'ai rarement vu des lettres aussi bien tournées, pas une faute d'orthographe. Il avait 25 ans à l'époque. Et je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de jeunes garçons de 25 ans qui puissent écrire avec autant d'assurance, sans faute, une belle calligraphie, des propos vraiment bien tournés. Enfin, c'était vraiment une littérature, une correspondance très très littéraire.
Il faudrait la publier alors, cette correspondance.
Ça n'est pas ma volonté. C'est pas moi qui décide.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous racontons la vie d'Hervé Guibert au premier jour d'une série qui lui est consacrée. Nous le faisons avec vous, Frédéric Andreau. Il a été beaucoup dit qu'il a été le premier écrivain du sida. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on l'a comparé, ou plutôt on l'a assimilé à sa maladie. Une maladie dont les premiers symptômes apparaissent pour lui en 1983. Comment ça va se développer finalement à partir de 88, où il découvre donc qu'il est atteint du virus du sida, parce qu'un de ses amis médecins lui enjoint finalement de faire le test. Comment ça va se passer ces dernières années avec le film aussi que vous évoquiez tout à l'heure, Frédéric Andreau?
D'abord, ce qui est amusant à souligner, c'est que il a découvert sa maladie pendant qu'il était en résidence à la Villa Médicis à Rome. On aurait pu imaginer que...
Avec Mathieu Lindon, d'ailleurs.
Avec Mathieu Lindon. Donc ça, on est en 87-88. Et on aurait pu imaginer que, ayant quand même bien évidemment assisté à la fin de Michel Foucault, ayant quand même une connaissance...
Il allait tous les jours le voir à l'hôpital, jusqu'à ce qu'à l'hôpital, on lui dise qu'il ne pouvait plus venir parce qu'il n'était pas de la famille.
C'est ce qu'ils appelaient, je crois, la loi du sang. C'est-à-dire qu'on ne pouvait laisser accéder auprès des grands malades en fin de vie que les gens qui avaient un lien de sang avec le malade. Il faisait partie du cercle très très rapproché. D'ailleurs, il l'a largement écrit... Et on lui en a voulu aussi d'avoir une espèce d'impudeur aussi d'avoir raconté tout ça. Mais il s'est expliqué aussi sur le sujet plus tard. Ce que j'étais en train de dire, c'est que donc on aurait pu imaginer qu'ayant quand même cette proximité avec la maladie et ayant très certainement en tête qu'il pouvait être atteint par cette maladie, il aurait pu faire les tests avant de partir à Rome. Mais il a choisi, quand il était à Rome, de revenir en France pour faire les tests et de repartir à l'académie avec les résultats en poche et en tête. Ce qui était quand même une démarche assez curieuse. Alors après, c'est le parcours de vie de tous les gens qui sont séropositifs et progressivement malades, c'est-à-dire d'abord une forme de déni, après une volonté que ça ne se voit pas. Il en parlait très peu, il n'en parlait jamais. Et puis après, il y a un moment où la maladie s'impose par des stigmates qui sont irréversibles. Une hypodystrophie, donc ces visages amaigris qu'on voit, des taches qui apparaissent sur la peau, enfin bon, une apparence très maigre et tout. Il y a un moment où il n'a plus pu le cacher. Et là, il en a fait un objet aussi de littéraire et à la fois le sujet de ce film, L'impudeur ou la pudeur. L'impudeur ou la pudeur, c'est ça où il a fait... veut de tout montrer. Et dans ce film, il s'est filmé, il se mettait en scène dans les moments les plus humiliants qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, tendre son bras à une infirmière qui vient le perfuser. On le voit sur la cuvette des WC aux prises avec des diarrhées insupportables, qui était vraiment le grand drame des malades du sida à l'époque.
Parce qu'il y a toujours ce rapport au corps, quand même.
Toujours.
Et là, il peut le montrer plutôt que de le décrire. Et il y a toujours eu, on l'a dit tout à l'heure avec le passage au concours de l'IDEC, une volonté de passer par l'image. Donc ce film, il est important pour ça aussi.
Oui, il est important pour ça. Et puis, montrer le corps, on le voit nu dans le film, sans aucune pudeur, alors que c'est quelqu'un qui a toujours été plutôt complexé de son corps, alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup de raisons de l'être, mais il a été...
Notamment parce qu'il avait la cage thoracique enfoncée.
Voilà, il avait un creux dans le sternum, et donc il hésitait toujours beaucoup à se baigner avec les autres personnes quand il y avait un bain collectif qui était prévu. C'était un complexe réel. Et là, il a oublié tout ça et il montre la maladie telle qu'elle était. Alors, il y avait la volonté, évidemment, de livrer aussi, de laisser un témoignage pour la postérité. Mais il y avait aussi, sans doute, quelque chose de thérapeutique. C'est-à-dire que ça l'aidait aussi, lui, à vivre ce qu'il avait à vivre.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les lettres n'étaient pas publiées, que ça ne dépendait pas de vous. Non, ça dépend de sa femme, Christine,
oui.
Qui donc est la personne qui détient les droits de l'œuvre d'Hervé Guibert, parce que Hervé Guibert a voulu cela. Il s'est marié avec elle à la fin de sa vie.
Oui, c'est une histoire compliquée. D'abord, Christine Guibert, c'est vraiment aujourd'hui l'autorité sur l'œuvre d'Hervé. Il faut quelqu'un qui ait ce rôle-là, parce que Hervé est toujours suscite beaucoup de convoitises. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'intéresser à lui, d'entrer dans son œuvre, de faire quelque chose, de récupérer son image, son souvenir, etc. Moi-même, quand j'ai eu le projet de ce livre, je suis passé par la case Christine Guibert, que j'ai rencontrée plusieurs fois, qui a été extrêmement coopérative, alors qu'elle n'est pas forcément réputée pour ça, donc elle devait quelque part croire dans ce projet. Ça n'a pas été un projet facile, hein. J'aimerais le souligner, parce que quand j'ai commencé l'idée de ce livre, on m'a dit mais tu vas jamais y arriver. Alors je posais des questions, pourquoi, tu verras, les portes se fermeront, etc. Et c'est vrai que beaucoup de portes se sont fermées.
Et pourquoi, d'après vous?
Parce que je pense que j'ai jamais été vraiment jugé légitime pour l'écrire. Pourquoi pas légitime? Eh bien, parce que je ne l'ai pas connu directement, parce que je n'ai pas été frappé par la maladie, parce que je n'appartenais pas aux sphères guibertiennes établies. Et on a retenu certaines paroles. On m'a pas livré les souvenirs qu'on aurait pu me livrer, ce que je trouve complètement débile, parce que quand on veut écrire, quelqu'un qui veut vraiment écrire un livre qui est motivé, de toute façon on va l'écrire, et pour qu'on soit le plus proche possible du souvenir d'Hervé Guibert, autant donner des informations, des souvenirs, des anecdotes. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les gens ne voulaient pas parler ou ne veulent pas donner leurs souvenirs, comme si ça allait leur faire échapper un petit peu à leur légitimité à eux. Quoi, c'était leur Hervé Guibert, c'était... vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de rétention d'informations que j'ai toujours trouvé bon. Assez compliqué.
Mm. La mort d'Hervé Guibert, il nous reste une minute, on a beaucoup tourné autour de ce thème de la mort. C'est tout de même son père qui va l'emmener pendant les derniers moments sur l'île d'Elbe. C'est quelque chose d'assez beau, ça, quand on connaît finalement la relation qu'il a décrite dans Mes parents.
Juste avant de parler de ça, je voudrais juste rendre hommage aussi à Agathe Gaillard, qui a été la galeriste qui l'a exposé beaucoup, parce que c'est vraiment la porte d'entrée vers l'univers d'Hervé Guibert. Et c'est grâce à Agathe que j'ai pu avoir beaucoup d'accès à des gens qui ont pu quand même m'aider à écrire ce livre. Donc la mort d'Hervé Guibert, elle est arrivée en 91, en deux temps, je ne sais pas si on a le temps de le raconter.
Il reste 25 secondes.
25 secondes. Donc en fait, le père, qui a délaissé son fils pendant quasiment toute sa vie, subitement a décidé de l'accompagner jusqu'à l'île d'Elbe où il est enterré. Il avait pris un petit sac de voyage le jour de l'enterrement et il s'est engouffré dans le fourgon avec le corps de son fils et ils ont fait un voyage tous les deux par la route entre Paris et l'île d'Elbe. Et on avait vraiment l'impression que c'était rattraper le temps perdu.
Merci beaucoup, Frédéric Andreau. Je rappelle donc que vous avez consacré un essai biographique à Hervé Guibert aux éditions Séguier, Hervé Guibert ou Les morsures du destin. Vous avez également publié une biographie de Régine Deforge chez le même éditeur, sans parler de votre biographie d'Albert Cossery pour laquelle nous vous avions reçu ici. C'était il y a quelque temps, elle a été publiée celle-là aux éditions du Corlevour. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Nicolas Delmas. Demain, nous parlerons de l'autofiction telle que l'a pratiquée l'auteur du protocole compassionnel, Hervé Guibert. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le retour de la poésie, choisie et commentée comme chaque jour par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine avec Léon Gontran Damas, mort à 65 ans en 1973. Eh ben oui, ça remonte déjà. Pigment névralgie est édité à Présence africaine poésie. Implicitement, le titre parle du pigment de la peau. S'il avait été piment, ça aurait été celui de Cayenne où est né Léon Gontran, métis blanc, amérindien, noir, cofondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold. Léopold Sédar Senghor. Et nous, nous aimons Léon pour le jazz. Ils ont si bien su faire les choses, qu'un jour nous avons tout foutu de nous-mêmes en l'air. Qu'ils aient si bien su faire les choses, qu'un jour nous ayons tout foutu de nous-mêmes en l'air. Il ne faudrait pourtant pas grand-chose, grand-chose, pour qu'en un jour, enfin, tout aille, aille dans le sens de notre race à nous, de notre race à nous. Il ne faudrait pourtant pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Nuit blanche est le titre du second poème, comme il y a dans Pigment névralgie d'autres titres, foie de marron, il y a Nuit blanche, où l'on valse. Attention, attention, le valser, c'est perdre son enfance. Mes amis, j'ai valsé, valsé comme jamais mes ancêtres, les Gaulois. Pas d'allusion aux Gaulois réfractaires, hostiles aux réformes. Non, 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 écoutez. Comme jamais mes ancêtres, les Gaulois, au point que j'ai le sang qui tourne encore à la viennoise. Mes amis, j'ai valsé, valsé toute mon enfance, vagabondant sur quelques Danube bleu, Danube blanc, Danube rouge, Danube vert, Danube rose, Danube blanc, rouge, vert, rose, au choix. Mes amis, j'ai valsé, valsé, follement valsé, au point que souvent, souvent, j'ai cru tenir la taille de tonton Gobineau, ou de cousin Hitler, ou du bon Arien qui mâchonne sa vieillesse sur quelques bancs de squat. Et le dernier poème est « pour sûr j'en aurai marre, sans même attendre qu'elles prennent les choses, l'allure d'un camembert bien fait. Alors je vous mettrai les pieds dans le plat, ou bien tout simplement la main au collet de tout ce qui m'emmerde en gros caractères, colonisation, civilisation, assimilation et la suite. En attendant, vous m'entendrez souvent claquer la porte. » On ne sait pas, on pourrait continuer sur un slow peut-être, ou un peu ralentir, parce qu'une joue
en appelle une autre. Voici que contre la mienne, ta joue est là, pour que l'une et l'autre en oublie et pardonne toute inutile violence. Violence.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des textes de Léon Gontran-Damas.